Radio Okapi.
Oh, Okapi. Le journal présenté par Blaise Shindani Kambala.
Ouverture ce vendredi du procès contre Joseph Kabila, selon l'extrait du rôle de la Cour. L'auditeur général des FARDC retient contre l'ancien président de la République et sénateur à vie plusieurs chefs d'accusation. Les détails dans quelques instants. La RDC, le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés et le Rwanda s'accordent sur le principe des rapatriements volontaires des réfugiés. Les trois parties s'engagent à rechercher des solutions durables en faveur des réfugiés en tenant compte des récentes avancées diplomatiques, notamment l'accord de paix de Washington entre Kinshasa et Kigali. L'invité de ce journal est Paulin Katamba, coordonnateur national adjoint du CENAREC. En séjour au Maniema, il a tenu un séminaire avec comme thème appui institutionnel pour une collaboration efficace entre les organes législatifs et exécutifs en vue d'une gestion publique axée sur les résultats pour l'atteinte des objectifs du développement durable. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue à notre grande édition du journal du matin. La Haute Cour militaire ouvre ce vendredi les procès contre Joseph Kabila selon l'extrait de rôle de la Cour. L'auditeur général des FARDC retient contre l'ancien président de la République et sénateur à vie plusieurs chefs d'accusation dont la trahison, la participation à un mouvement insurrectionnel, crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Ce procès intervient près de deux mois après la levée de l'immunité parlementaire du sénateur à vie dans un contexte de controverse de la procédure et des tensions politiques en RDC. Comment en est-on arrivé à ce procès, Jeff Ngoï Mulonda?
C'est dans une controverse de procédure dénoncée par le camp de l'ancien président de la République comme étant irrégulière que l'auditeur général des FARDC et l'ancien ministre de la Justice préciseront que les accusations portées contre Joseph Kabila ne concernent pas ses fonctions passées de chef de l'État, mais son statut actuel de sénateur à vie. Bien avant, Kabila est accusé par son successeur de complicité avec le groupe rebelle M23, soutenu par le Rwanda. Quelques jours après, cela va ouvrir la voie à des poursuites enclenchées par l'auditorat général des FARDC pour obtenir la levée de l'immunité parlementaire de l'accusé. Une commission spéciale est mise en place par le Sénat. Elle est chargée d'examiner le réquisitoire de l'auditeur militaire en ayant trois jours. Invité le 20 mai par la commission, Joseph Kabila est resté sourd aux convocations en séjour de plusieurs mois à l'étranger. Le 23 mai, le Sénat vote à la majorité la levée de son immunité, autorisant ainsi des poursuites judiciaires. De l'étranger, l'accusé réagit. Il accuse le régime Tshisekedi de plusieurs maux, dont des dérives dictatoriales. Il décide de mettre fin à son exil pour regagner le pays par sa partie orientale. Il sera donc jugé par défaut.
Les Congolais appelaient à cultiver la paix pour le développement, la croissance de la République et pour contribuer à l'avancement des différents accords signés pour le retour d'une paix durable au pays. Appel lancé par le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement au cours d'un échange citoyen organisé ce jeudi à Kinshasa par les réseaux citoyens Pona Congo en collaboration avec la Synergie pour la transparence des processus de paix. Intervenant dans cette rencontre, Patrick Muyaya Katembwe estime que la voie vers la paix durable en RDC passe par une compréhension globale et la bonne lecture de ces accords signés par le gouvernement. On l'écoute au micro de Jean-Désiré Kanyama.
Nous tous, nous sommes citoyens d'un même pays que nous devons nous tous avoir une ambition commune pour notre pays et considérer que ceux qui sont pour le temps du mandat à la tête de la République méritent notre soutien. Ce n'est pas un soutien pour nos projets entre guillemets politiques en les termes, c'est un soutien contre un ennemi, un adversaire extérieur qui a montré depuis 30 ans que quoi que vous fassiez, quelle que soit votre volonté de construire la paix, comme le président Tshisekedi l'a montré aux premières années de son arrivée aux responsabilités, en face de ses intérêts économiques, que sa survie va continuer. Alors cette guerre, c'est aussi un peu la guerre contre une forme de méconnaissance ou d'ignorance de ce que nous sommes. Mais alors comment, dans ces contextes, un pays peut prétendre devenir protecteur d'une communauté dans notre pays? Nous avons 9 pays voisins. Supposons que les présidents gabonais disent « les Bateke là-bas sont attaqués par les Mobondo », nous intervenons. Supposons que le président angolais dise « les Bazombo sont attaqués », nous intervenons. Mais qu'est-ce qui arrivera ?
Notons que l'écrivain Didier Moumengui et le professeur Jacques Joly sont également intervenus au cours de cet échange citoyen autour du thème « Différents processus de paix et le peuple dans tout ça ». Par ailleurs, au Kasaï central, le gouverneur des provinces est rentré ce jeudi de Kinshasa après 2 semaines d'absence. Joseph Moïse Kambolu était invité à Kinshasa par le vice-premier ministre de l'Intérieur à travers un télégramme. C'était à la suite des arrêtés controversés que le gouverneur avait signés, portant nomination de plusieurs responsables dans l'administration territoriale de la province. Devant la presse, Joseph Moïse Kambolu s'est dit confiant, soulignant avoir fait le plaidoyer pour le développement du Kasaï central. Écoutez le gouverneur du Kasaï central.
Je suis très content, heureux de retrouver cette population toujours enthousiasmée. Ça a été une occasion pour nous d'activer encore davantage ce que nous avons toujours cherché. En fait, c'est quoi le développement de notre province? Et je pense que notre séjour à Kinshasa a beaucoup contribué à cela. J'ai dit, tout va bien et pour le moment, je peux vous assurer que tout ira pour le mieux. Demeurer dans l'espoir, faire de manière à ce que le peuple accompagne tout ce que le chef de l'État a demandé que nous puissions faire. Et nous allons le faire.
La République démocratique du Congo, le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés et le Rwanda s'accordent sur les principes des rapatriements volontaires des réfugiés. Les trois parties engagées dans ce processus ont co-signé un communiqué ce jeudi 24 juillet à Addis Abeba en Éthiopie au terme de 2 jours de travaux entre experts. Plus de précisions avec vous, Poli Mousalia.
La République démocratique du Congo et le Rwanda s'engagent à rechercher des solutions durables en faveur des réfugiés en tenant compte des récentes avancées diplomatiques, notamment l'accord de paix de Washington entre Kinshasa et Kigali d'une part, d'autre part la déclaration de principe signée le 19 juillet dernier à Doha entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23. Ces engagements visent à créer un climat propice à la reprise effective et sécurisée du retour volontaire des réfugiés, précise un communiqué du ministère congolais de l'Intérieur publié sur X. Le communiqué conjoint recommande l'accélération du rapatriement volontaire de 600 réfugiés rwandais actuellement hébergés au centre de transit de Goma. Le document réaffirme également la nécessité d'une vérification appropriée de l'identité et de la nationalité des réfugiés souhaitant retourner volontairement dans leur pays en coordination avec le HCR. Le communiqué conjoint a été signé par Jacquemain Chabani, ministre congolais de l'Intérieur. Le Rwanda, pour sa part, était représenté par son ambassadeur en Éthiopie, le général Charles Karamba.
Pendant ce temps, les programmes de promotion des soins de santé primaire PPSSP, en collaboration avec l'UNICEF, a clôturé ce jeudi la distribution des 3 jours d'articles ménagers essentiels aux déplacés des sites de Djaïba et Loda en territoire de Djougou, dans la province de l'Ituri. Ces personnes, victimes des violences des groupes armés, vivent dans une précarité extrême à proximité des bases de la MONUSCO. L'aide, composée entre autres des couvertures, des nattes, des bâches et des outils agricoles, vise à améliorer leurs conditions de vie. Écoutons Trésor Muyumba, chargé de communication des PPSSP, au micro de Jean-Claude Lokidile.
Le projet UNICEF Réponse Rapide qui est exécuté par PPSSP et UNICEF venait de clôturer une série d'assistances en faveur de déplacés dans l'objectif d'améliorer tant soit peu les conditions de vie de cette population déplacée dans les sites. C'est là après une série de l'insécurité qui a battu record. Il y a des couvertures, des nattes, des casseroles, il y a des torches, wash simplifiées, composées de bidons, de seaux, de savons, de kits d'hygiène intime dans chaque ménage, mais aussi le fillonnage de procréation ont réussi aussi de kits d'hygiène intime pouvant les aider pendant leur période menstruelle. C'est qu'est vrai, cette population vraiment dépourvue de toutes choses depuis une série de l'insécurité qui a battu record dans la zone de santé de Fataki.
Standard Bank Group exprime sa volonté d'apporter son appui financier au gouvernement congolais pour l'exécution des projets intégrateurs à impact visible pour le développement économique du pays. Le chef exécutif pour la région d'Afrique de cette banque l'a dit hier, jeudi, à l'issue de l'audience que la première ministre Judith Suminwa a accordée à sa délégation. Dans sa restitution, Lungisa Fuzile a affirmé que
Cette rencontre leur a permis d'avoir une vision claire du programme d'action du gouvernement malgré la crise qui sévit dans l'est de la RDC. On l'écoute dans cet extrait proposé par Alain Rungmushi.
We are grateful for the opportunity. Among the things that we discussed is the fact that our bank, Standard Bank Group, has a presence in this country.
Le Standard Bank est présent en RDC depuis plusieurs années et il était important pour nous de pouvoir rencontrer la Première ministre qui nous a fait l'honneur de nous recevoir cet après-midi pour lui dire à quel point nous sommes engagés à accompagner la RDC dans son développement. Parce qu'il est important que ce pays joue son rôle et sa place, une place significative en Afrique et dans le monde, en accompagnant la République démocratique du Congo dans le développement de ses infrastructures, que ce soit le corridor de l'Obito ou les autres voies de télécommunication, les routes ou autres réseaux de communication. Standard Bank se tient aux côtés du gouvernement afin de pouvoir l'accompagner, afin de pouvoir l'aider à transformer ce potentiel-là pour que ça ait un impact significatif sur la RDC, mais également sur l'Afrique et sur le monde.
Being in a strategic partnership with the biggest bank in the world, ICBC.
Ce journal se poursuit au Grand Katanga. La sûreté financière de réhabilitation de l'environnement dans les secteurs des mines est au centre d'une formation qui s'est ouverte ce jeudi à Lubumbashi. Il s'agit des fonds obligatoires que chaque entreprise minière doit verser dans une banque comme garantie pour réparer les dégâts environnementaux qui seront causés après le départ de l'entreprise. Cet atelier est organisé par la direction de l'environnement minier avec l'accompagnement de l'ambassade des Pays-Bas à Kinshasa, Pone Munanga.
Une cinquantaine de participants prennent part à cette activité de deux jours. Il s'agit notamment des responsables des banques, de la FEC, des opérateurs miniers, des mandataires en mine, des organisations de la société civile, de la chambre des mines et tant d'autres. L'objectif est de sensibiliser les acteurs du secteur minier à la transparence, à la bonne gouvernance et au respect du code et du règlement minier. La chef des missions adjointe à l'ambassade des Pays-Bas à Kinshasa revient sur l'importance de la sûreté financière de réhabilitation de l'environnement. Jennifer Imperator.
Quand nous engageons dans les exploitations minières, il y a des dégâts pour les communautés, dégâts pour l'environnement, et que après l'exploitation, il faut qu'on puisse maîtriser ces dommages, maîtriser ce dégât. Et la sûreté financière va faire de sorte que on puisse assurer que après le départ des exploitations, on peut passer à l'attaque à réhabiliter l'environnement pour donner une vraie chance aux communautés locales.
Au cours de cette activité, il est fait mention que sur un échantillon de 93 entreprises, seules 10 entreprises ont transmis les informations en rapport avec la sûreté financière. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Environnement encore. Une première victoire est franchie dans l'action en justice en faveur des obligations des États pour le climat. C'est en ces termes que le secrétaire exécutif de l'ONG Alerte Congolaise pour l'environnement et les droits humains ACDH réagit à la décision prise mercredi par la Cour internationale de justice CIJ. Cette haute juridiction de l'ONU a rendu son avis consultatif historique, confirmant que les États ont l'obligation juridique de lutter contre les changements climatiques et de protéger leurs citoyens de ces effets. Selon Maître Olivier Ndolé, cet avis répond au plaidoyer déposé il y a peu à la CIJ par leur coalition dénommée Plateforme africaine sur le climat. Suivons-les dans ses propos.
C'est une victoire et aussi c'est une décision charnière entre le niveau universel et le niveau régional et pourquoi pas aussi le niveau national. Donc ça va avoir un effet sur le plan d'une redéfinition et aussi une certaine révision des législations internes, des conventions et des coopérations au niveau régional. Quand vous prenez par exemple notre merveilleux parc national de Virunga, par rapport par exemple aux questions d'exploitation des fossiles qui donnent beaucoup plus de dégâts en termes de dégradation des terres des communautés locales, cet avis consultatif va devoir donner d'orientations législatives qui vont aussi consacrer à une certaine manière la protection de notre biodiversité, une conservation durable, mais aussi une conservation pro-communauté, mais aussi à la question du droit à une justice climatique au niveau continental et des décisions au niveau national.
Actualité internationale.
Le président de la République Emmanuel Macron annonce sur son compte X ce jeudi 24 juillet que la France va reconnaître l'État de Palestine en septembre prochain lors de l'Assemblée générale des Nations Unies. La France deviendra ainsi la première puissance du G7 à prendre une telle mesure que le groupe Hamas a qualifié d'étape positive, alors que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a fustigé une décision qui récompense la terreur.
L'invité.
Notre invité est Paulin Katamba, coordonnateur national adjoint du secrétariat national de renforcement des capacités SENAREC. En séjour au Maniema, il a tenu un séminaire avec comme thème appui institutionnel pour une collaboration efficace entre les organes législatifs et exécutifs en vue d'une gestion publique axée sur les résultats pour l'atteinte des objectifs du développement durable. Paulin Katamba en parle dans cet entretien avec Florence Kizalunga.
Monsieur Paulin Katamba, bonjour.
Bonjour, madame.
Dans le cadre de l'appui institutionnel, vous, SENAREC, vous êtes venu au Maniema et vous avez réuni le membre de l'Assemblée provinciale et du gouvernement provincial. C'était quoi la quintessence de ces séminaires?
Ce séminaire ici trouve son origine, au fait, dans le mandat et le rôle du SENAREC, qui est le secrétariat national de renforcement des capacités. Le SENAREC, au fait, est le guichet unique en termes de renforcement des capacités. Et le renforcement des capacités, ça signifie quoi? Les renforcements des capacités, ça signifie apporter de l'expertise, apporter les connaissances aux membres du gouvernement pour la bonne gouvernance, pour les leaderships transformationnels et leur permettre d'assumer leurs tâches convenablement.
Vous pensez que dans les chefs des membres du gouvernement provincial, que ce soit de l'Assemblée provinciale, il y avait quelques insuffisances pour que vous les renforciez aujourd'hui en capacité?
Le problème, vous savez, nous tous ici, nous nous formons chaque jour. On ne peut pas prétendre avoir toutes les capacités, toutes les expertises dont on a besoin. Et le monde change. Vous savez que le monde est dynamique, c'est-à-dire il y a toujours des changements. Je vous donne un exemple. Vous avez par exemple les gens en informatique qui sont experts en informatique, mais aujourd'hui, ils doivent rentrer à l'école pour aller apprendre l'intelligence artificielle. De la même manière, ici, nous amenons des experts. On ne peut pas être expert dans tous les domaines. Nous amenons vraiment des experts, par exemple, des experts dans les entités territoriales décentralisées. Nous amenons des experts en leadership transformationnel. Nous amenons les experts dans plusieurs domaines. Alors, ces experts-là, au fait, ce sont des échanges que nous avons avec les membres du gouvernement et les membres aussi de l'Assemblée provinciale afin de se remettre à niveau et parfois peut-être se remettre en question sur certains points. Et je pense que c'est ça, c'est pas un problème de lacune dans le fief des membres du gouvernement ou de l'Assemblée provinciale.
Mais vous, SENAREC, vous cherchez une bonne collaboration, une collaboration efficace entre ces deux institutions. Vous pensez qu'avec ces assises de 3 jours, vraiment ça suffit pour qu'il y ait une bonne collaboration telle que vous le souhaitez?
Déjà en arrivant, nous avons été impressionnés par la collaboration qui existe. Je pense que le gouverneur de la province, l'honorable président de l'Assemblée provinciale, ils sont déjà en très bons termes. On a été impressionnés par ça. Mais non, c'est tout simplement trouver un terrain d'accord pour travailler ensemble. Et je pense qu'ils travaillent déjà ensemble. Nous avons juste donné les décors plus ou moins liés à la loi, comment est-ce qu'ils doivent fonctionner. C'est sur ça que nous avons discuté. Mais d'une manière générale, la collaboration existe déjà entre le gouverneur de Maniema et l'honorable président de l'Assemblée provinciale de Maniema.
Pour qu'il y ait une bonne collaboration, selon vous, pour qu'il n'y ait pas de disputes ou bien des malentendus entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial, qu'est-ce que vous pensez que ça peut être fait?
Ce qui peut être fait, c'est d'abord, il faut qu'il y ait dialogue. Il faut qu'il y ait beaucoup de dialogue entre les gouverneurs et le président de l'Assemblée provinciale. Et aussi, non seulement les dialogues, mais regardez c'est quoi est-ce que la loi prévoit. Et puis suivre ce que la loi prévoit, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Parfois, vous voyez, les problèmes viennent parfois dans des susceptibilités peut-être qui tiennent leur origine par manque de dialogue. Mais je pense que, comme on a trouvé les gouverneurs ici, ils parlent tout le temps avec le président de l'Assemblée provinciale, je ne pense pas qu'ils auraient des problèmes de collaboration.
Mais ils sont en politique, ce sont les intérêts qui priment au détriment même des principes.
Mais c'est ça qu'un des experts a fait. Il y avait un module, une thématique qui avait été donnée, que parfois il faut mettre sa casquette politique de côté pour être un homme d'État. Pour être un homme d'État, il faut mettre parfois sa casquette politique un peu de côté. Je sais qu'il est difficile de le faire, mais nous leur demandons vraiment de se faire violence. Il est important de mettre un peu sa casquette politique de côté pour promouvoir vraiment le bien de la province. Nous sommes disposés à accompagner Son Excellence Monsieur le Gouverneur et les présidents de l'Assemblée provinciale, à les accompagner pour le renforcement des capacités. Nous avons même déjà discuté, nous avons certains experts et certains coachs qui peuvent revenir pour beaucoup plus de temps. Puisque vous savez, pendant 3 jours, il est très difficile vraiment de faire le transfert de connaissances. C'est pour ça que nous avons promis que nous allons mettre l'expertise de Sénarec à la disposition de la province.
Monsieur Paulin Katamba, je vous remercie.
Merci beaucoup, madame.
Notre invité, Paulin Katamba, s'entretenait avec Florence Kizalunga et c'est par là que prend fin notre grande édition du Journal du Matin, coordonnée et supervisée par Polly Mouzalia et mise en onde par Jean-Claude Nsiala Mwanama Kengonsoalo. Merci de nous avoir suivis.